L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Ce matin avec votre invité, on va s'intéresser au rapport envoyé par les loyalistes au Comité des droits de l'homme des Nations Unies.
Oui, notre invité du matin, Sébastien Van Den Dyck, expert en géopolitique et en relations internationales, conseiller spécial auprès de la présidente de la Pointe Sud. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'accepter notre invitation. Alors les loyalistes ont publié un rapport pour expliquer comment les inégalités persistantes et le coup d'État indépendantiste mettent en péril les droits humains et fondamentaux des Calédoniens. Quel est le but de ce rapport et à qui est-ce qu'il est destiné ?
Alors ce rapport, il est destiné au Comité des droits de l'homme de l'ONU qui, tous les ans, examine la situation dans un certain nombre de pays. Et cette année, les 22 et 23 octobre prochains, le Comité des droits de l'homme de l'ONU examine la situation de la France. Et dans le cadre de cet examen, des ONG, des partis politiques peuvent produire des rapports à l'ONU pour informer de la situation en France. Il se trouve que le groupe d'initiative de Bakou, donc l'outil d'influence de l'Azerbaïdjan, a produit un rapport sur la politique française dans ces territoires ultramarins. Ce rapport est très long sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Donc il paraissait important de produire un rapport aussi pour expliquer la réalité des choses, qui ne soit pas en fait l'histoire inventée de Bakou.
Alors un rapport de 25 pages, et en fait on a envie de le résumer en disant que c'est l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, vue selon le prisme des partisans de la France. C'est une vision qui est très différente évidemment de celle des indépendantistes. Pour prendre les choses dans l'ordre, vous expliquez d'abord que les Calédoniens ont voté 3 fois souverainement pour rester français, et que ce résultat ne peut pas être remis en cause, y compris le 3e référendum.
Oui, alors deux moments dans la réponse. La première, c'est qu'il y a une vraie concurrence entre les histoires qui sont racontées par les uns et par les autres. Et il est important que les loyalistes puissent porter effectivement une histoire, celle qui me semble être quand même la plus proche de la réalité, parce que les indépendantistes ont particulièrement participé à un petit peu à tordre les faits, un certain nombre de faits, et particulièrement pour répondre à votre question, la réalité autour du 3e référendum, il y a eu beaucoup de contestations. Maintenant, dans les faits, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune institution internationale qui remet en cause ni la légalité ni la légitimité des 3 votes et donc du 3e référendum également.
Alors vous parlez ensuite de la radicalisation des indépendantistes après leur 3e défaite. Ils vont radicaliser leur discours et leur mouvement politique. Quelles sont les étapes de cette radicalisation que vous avez relevées ?
C'est une radicalisation en deux temps. D'abord, une radicalisation dans les discours. Je pense que tout le monde a en tête les propos de Daniel Goa sur la France, qui est un régime poutinien ou un régime nazi. Donc effectivement, il y a eu un durcissement dans les discours, même jusqu'à très récemment. Hein. On se souvient effectivement la prise de parole de M. Wamitan qui disait qu'on avait atteint notre quota de blanc en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, effectivement, c'est une première forme de radicalisation dans le discours. Et puis après, il y a une radicalisation sur le terrain et dans les actes qui a conduit, avec la création de la CCAT, à malheureusement l'insurrection et le coup d'État qu'on a connu le 13 mai dernier.
Alors dans ce rapport, vous évoquez aussi, bien sûr, le projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral. Là aussi, un narratif complètement différent, puisque vous parlez, vous, d'une solution démocratique nécessaire et proportionnée pour répondre au vote souverain des Calédoniens. Vous affirmez que c'est une réforme indispensable.
C'est une réforme indispensable à deux titres. C'est une réforme indispensable d'abord sur un point de vue juridique. Le Conseil d'État, le 26 décembre 2023, émet un avis qui explique qu'en fait, on ne peut pas tenir des élections en Nouvelle-Calédonie dans la situation actuelle parce qu'il y a une inégalité devant le suffrage. Donc ça nécessite qu'on change le corps électoral pour que cette égalité devant le suffrage revienne. Et puis c'est aussi une nécessité politique puisque le dégel du corps électoral, ou du moins le retour à une restriction sur un corps glissant à 10 ans, c'est une réponse politique au vote des Calédoniens qui par 3 fois ont voté non à l'indépendance et donc à la fin des dispositions mises en place par l'accord de Nouméa.
Donc on est loin pour vous du rapport de force dont parlent les indépendantistes depuis des mois.
C'est pas un rapport de force. Le ministre de l'Intérieur était, par ses fonctions, parce que c'est aussi le ministre des élections, c'est lui qui les organise, contraint de s'assurer que les élections qui seront tenues en Nouvelle-Calédonie se tiennent de manière légale vis-à-vis de la loi. Et pour le faire, il fallait dégeler le corps électoral ou du moins le réviser.
Alors vous parlez ensuite dans ce rapport, encore une fois qui est destiné à l'ONU, de l'activisme de l'Azerbaïdjan aux côtés des indépendantistes radicaux depuis le milieu de l'année 2023. Là aussi, quels sont les éléments ? On parle beaucoup de l'Azerbaïdjan, mais il y a des éléments précis qui traduisent cette ingérence ?
Alors, avant de revenir sur les éléments précis, je pense que l'exemple le plus évident, c'est l'interview de M. Forès dans un journal local récemment, qui explique clairement que le groupe d'initiative de Bakou, donc qui est une organisation qui a été mise en place par le gouvernement azerbaïdjanais, a apporté aux indépendantistes radicaux un soutien logistique et de communication. Donc là, je pense que c'est à peu près clair, même eux le disent. Maintenant, on a bien vu une vraie montée en puissance de l'ingérence azerbaïdjanaise en Nouvelle-Calédonie. Ça a commencé effectivement en juillet 2023 par des réunions à Bakou avec la création du groupe d'initiative de Bakou, et puis une succession de réunions à Bakou, à Istanbul ou ailleurs. Il faut se souvenir aussi que les forces de l'ordre en France ont arrêté en décembre 2023 une espionne, une journaliste très proche des services azerbaïdjanais en Nouvelle-Calédonie pendant la visite de Sébastien Lecornu. Et pour ceux qui font un petit peu de la presse, c'est votre cas, je vous encourage à aller voir l'agence de presse azerbaïdjanaise qui, tous les mois, trouve un sujet pour faire une dépêche en soutien aux indépendantistes radicaux. Ils réutilisent les mêmes langages, notamment autour des prisonniers politiques. Donc il y a énormément d'exemples qui démontrent que l'Azerbaïdjan a été effectivement très offensif sur le sujet calédonien, mais d'ailleurs, ils ne le sont plus aujourd'hui que sur le sujet calédonien, ils sont aussi en Polynésie, à Mayotte, etc.
– Avec une volonté de déstabilisation de la France, en fait.
– Avec une volonté très claire de déstabilisation de la France, c'est pas nouveau. La Nouvelle-Calédonie a toujours été très convoitée par les puissances étrangères, très jalousée, pour deux raisons, soit parce que ces puissances étrangères-là voulaient récupérer la position stratégique de la Nouvelle-Calédonie ou ses ressources minières, c'est le cas de la Chine actuellement, ou parce qu'elle était utilisée pour déstabiliser la France, c'était le cas de la Libye dans les années 80, pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'était vraiment il y a longtemps. Et aujourd'hui, c'est le cas de l'Azerbaïdjan qui utilise la Nouvelle-Calédonie pour déstabiliser la France dans le cadre des critiques, dans le cadre d'une revanche vis-à-vis des critiques que la France fait de sa gestion au Haut-Karabakh et à la frontière arménienne.
– Alors, dans votre rapport, toujours, on en arrive au 13 mai, là, vous parlez d'une tentative de coup d'État des indépendantistes radicaux. Tentative de coup d'État, c'est la bonne expression, c'est vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. On a parlé de violence insurrectionnelle, d'émeutes, vous dites coup d'État. Enfin, tentative de coup d'État.
Pour moi, c'est une tentative de coup d'État. À deux titres, c'est une tentative de coup d'État parce qu'on a tous bien conscience que s'il n'y avait pas eu assez de forces de l'ordre, s'il n'y avait pas eu les voisins vigilants, ça se serait passé de manière beaucoup plus grave que ce qu'on a vu. Donc, il y a une vraie tentative par les miliciens indépendantistes radicaux de détruire et par là même de prendre de force un certain nombre de positions. Et puis, c'est un coup d'État en deux temps. Je le disais chez vos confrères du JDD quelques jours après, d'ailleurs, le 13 mai. La volonté, c'est d'installer un climat de terreur en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde l'a compris, avec des propos racistes, avec des attaques sur tout ce qui nous rassemble, les écoles, les lieux de sport à Dimbéa récemment, les églises. L'idée, c'est d'installer un climat de terreur dans le but de faire fuir les gens. On sait ici qu'il y a un équilibre politique qui est très lié à l'équilibre démographique, avec l'exode d'un certain nombre de populations terrorisées ou privées de leur emploi. Les indépendantistes radicaux souhaitent récupérer par la force, en inversant le rapport démographique, ce qu'ils ont été incapables de récupérer par les urnes.
– Alors c'est un rapport à l'ONU, encore une fois, il y a un aspect qui aussi est très intéressant et qu'on lit rarement. Vous listez le maintien des inégalités en Nouvelle-Calédonie. Mais ce ne sont pas les inégalités qui sont régulièrement dénoncées. C'est quoi pour vous le maintien de ces inégalités ? Inégalités persistantes, dites-vous.
Oui, alors tout le monde convient qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des inégalités sociales et qu'il faut les combattre. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a d'autres inégalités aussi qu'on n'aborde pas trop. Encore une fois, c'est une question de narratif, c'est une question de récit qu'on a sur la Nouvelle-Calédonie et sur les rapports de force. J'en prends deux, une qui me concerne particulièrement, enfin deux qui me concernent, les inégalités d'un point de vue géographique. En Nouvelle-Calédonie, les habitants de la province sud sont sous-représentés. Ils sont sous-représentés dans les institutions au Congrès et leur vote pèse beaucoup moins qu'un habitant de la province des îles. On est pourtant de Calédoniens, pareil, bon, c'est comme ça. Et puis un autre, une inégalité vis-à-vis du vote, c'est la question du dégel du corps électoral. Il y a des gens ici qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, il y a des gens qui vivent ici depuis 25 ans et qui ne peuvent pas voter parce qu'on a une citoyenneté dans laquelle on ne peut pas rentrer. Peut-être une qui est moins dite, mais dont il ne faut pas avoir peur de parler, c'est une inégalité sur des rapports ethniques. L'accord de Nouméa consacre deux statuts, un statut civil, un statut coutumier, et le statut coutumier est accompagné d'un certain nombre d'avantages en matière politique, administrative, l'inscription automatique, par exemple, fiscale. C'est des choses dont ne bénéficient pas les autres Calédoniens, donc le droit est bête et méchant, j'ai envie de vous dire. C'est des inégalités, il ne faut pas les occulter.
Alors, d'autre part, vous signalez également que les loyalistes souhaitent que le comité de décolonisation, ce qu'on appelle le C24, puisse dépêcher une mission d'observation en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a déjà une mission d'information maintenant du Forum des îles du Pacifique. Vous avez confiance dans de telles instances et notamment dans celle du C24 ?
J'ai plus confiance dans le C24 que dans le Forum des îles du Pacifique, dont les ambassadeurs qui sont censés venir sont quand même de fiefs pro-chinois. Donc ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. La réalité, c'est que pendant très longtemps, les indépendantistes étaient les seuls à aller dans les forums internationaux, à partager leur narratif, à expliquer tout le mal qu'ils pensaient de la France et des non-indépendantistes. Depuis quelques années, avec Sonia Bakès, la présidente de la province sud, on y travaille beaucoup, Naya Wateo aussi. Il y a une vraie présence des loyalistes dans ces instances internationales, et particulièrement au C24. Et le C24 a évolué sur sa lecture de la situation en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que maintenant, elle n'a plus qu'un son de cloche, elle en a deux. Et on voit bien, notamment au C24, qu'il n'y a plus du tout la même lecture des faits sur la Nouvelle-Calédonie. J'étais à Caracas le 13 mai, quand les choses ici ont dégénéré. Très rapidement, la présidente du C24 est venue nous parler et a clairement évoqué ce qui se passait. Elle était très consciente de ce qui se passait d'ailleurs. Elle était très consciente que les Azerbaïdjanais qui étaient ici faisaient de l'influence de manière très néfaste vis-à-vis du comité. Et lorsque vous regardez les rapports du C24, ils expliquent aujourd'hui que le processus de décolonisation qui a été mis en place par la France, il est transparent, il est sérieux, il le salue. Donc je pense qu'il faut... La confiance n'exclut pas le contrôle, hein, mais quitte à choisir, le C24 me paraît être la meilleure des organisations pour venir ici faire une mission d'observation.
– Et alors un rapport comme celui-là pour expliquer les inégalités persistantes et le coup d'État indépendantiste qui mettent en péril les droits humains et fondamentaux des Calédoniens, ça peut être entendu à l'ONU, ça peut contrecarrer la vision qui est parfois donnée, qui est peut-être donnée trop souvent de la Nouvelle-Calédonie.
En tout cas, si on n'essaie pas, ça ne fonctionnera pas. Ce qui est sûr, c'est que d'autres le font. La LFI a fait la France Insoumise a fait un rapport, les Azerbaïdjanais ont fait un rapport, donc c'est important aussi de porter notre vision des choses, donc il faut le faire, et on a de bonnes relations avec l'ONU, de bons rapports institutionnels, de bons rapports personnels aussi, et donc on fera en sorte que les gens puissent au moins le lire et le prendre en compte, que ça soit à l'ONU, que ça soit dans le Forum des îles du Pacifique, si d'aventure ils acceptent de recevoir les non-indépendantistes autour de leur table, et même à Paris, parce que c'est important de partager ce narratif-là aussi ailleurs, qui me semble quand même un peu plus proche de la vérité.
Bastia Van Den Dijk, expert en géopolitique et en relations internationales, conseiller spécial auprès de la présidente de la province sud. Merci d'avoir accepté
cette invitation. Elisabeth.